êtes sur Radio Orient, merci de nous rejoindre. Il est midi, l'heure du journal. Avec vous, Nadia Bencher. À la une de cette édition, Donald Trump annonce une reprise des pourparlers avec l'Iran. La République islamique dément et affirme négocier avec Oman pour sécuriser un passage dans le détroit d'Ormuz. L'afflux de migrants la semaine dernière dans l'enclave espagnole de Ceuta. Le bilan est lourd. 72 personnes ont perdu la vie, annonce Madrid. Rabat parle de 11 victimes. En France, la situation semble se stabiliser en Gironde. En revanche, dans le Var, un incendie n'est toujours pas fixé. 20 départements de l'Est et du Sud-Est restent en vigilance canicule. Bonjour. Les États-Unis et l'Iran se contredisent sur l'état de leur discussion. Alors que Donald Trump a annoncé la reprise de négociations ce lundi, Téhéran dément catégoriquement. La République islamique affirme qu'aucun échange n'est en cours avec Washington et précise négocier uniquement avec Oman sur le dossier du détroit d'Ormuz. Les détails avec vous, Nawal El Amouchi.
Et oui, Nadia, côté iranien, le démenti est sans ambiguïté. Le ministère des Affaires étrangères affirme qu'aucune négociation n'est actuellement en cours avec les États-Unis. Téhéran assure discuter uniquement avec Oman pour sécuriser un passage dans le détroit d'Ormuz, point stratégique majeur pour le commerce mondial des hydrocarbures. Cette déclaration, elle contredit donc directement celle de Donald Trump. Le président américain a annoncé hier soir la reprise de discussions avec l'Iran dès aujourd'hui, après avoir renoncé à de nouveaux bombardements contre l'Iran. Et c'est bien le détroit d'Ormuz qui est au cœur des tensions. Depuis la reprise des affrontements début juillet, l'Iran contrôle étroitement la circulation maritime et n'autorise qu'un seul itinéraire le long de ses côtes. Téhéran affirme être proche d'un compromis avec Oman sur une nouvelle route maritime acceptable pour les deux parties. Cette perspective a entraîné un recul des cours du pétrole. Le Brent a perdu près de 5% à la réouverture des marchés. Donald Trump estime qu'un accord sur Ormuz pourrait ouvrir la voie à un compromis plus large sur le programme nucléaire iranien. Mais le démenti de Téhéran montre bien les profondes divergences qui persistent entre ces deux pays, et cela plus de 5 mois après le début du conflit.
Merci Nawal pour ces précisions. Au Proche-Orient, à présent, la tension ne faiblit pas dans les territoires palestiniens. Au moins 13 personnes ont été tuées dans de nouvelles frappes israéliennes sur la bande de Gaza, selon la défense civile du territoire palestinien. Ces bombardements interviennent quelques jours après l'annonce d'un accord prévoyant le désarmement du Hamas et un retrait progressif des forces israéliennes. Le Hamas a confirmé cet accord, mais Israël ne l'a toujours pas officiellement validé. Ce matin, le gouvernement de Benjamin Netanyahou a exprimé ses réserves sur le plan américain pour Gaza. Il affirme avoir transmis à Washington ses inquiétudes, estimant que la version rendue publique ne reflète pas sa position. Israël exige un désarmement complet, vérifiable et irréversible du Hamas avant tout retrait de ses forces, estimant que le mouvement s'est réarmé depuis le cessez-le-feu. Direction le Liban, à présent, à l'occasion du 6e anniversaire de l'explosion du port de Beyrouth, le président libanais a rendu hommage aux victimes. Joseph Aoun a appelé à faire toute la lumière sur cette tragédie. Il a affirmé que la vérité, la justice et la reddition des comptes restent indispensables pour restaurer la confiance dans les institutions. Le chef de l'État a exhorté le juge d'instruction à émettre sans délai son acte d'accusation, estimant que les familles des victimes attendent ce geste depuis trop longtemps. Au Soudan, une frappe de drone a fait au moins 35 morts dans un tribunal coutumier du Darfour Nord, selon l'ONG Emergency Lawyers, qui accuse l'armée régulière d'être responsable. L'armée n'a pas réagi, tandis que les forces de soutien rapide dénoncent un crime horrible. Le conflit, qui dure depuis avril 2023, continue d'aggraver une crise humanitaire majeure. Et puis, un séisme de magnitude de 5,6 sur l'échelle de Richter a été ressenti dans la nuit au Caire et jusqu'à Alexandrie. Information relayée par l'USGS, l'Institut géopolitique américain, et les autorités égyptiennes. Aucun dégât ni victime n'a été signalé à ce stade. Le bilan humain s'alourdit après l'afflux inédit de dizaines de milliers de migrants vers l'enclave espagnole de Ceuta. Selon Madrid, au moins 72 personnes ont trouvé la mort en tentant de franchir la frontière depuis le Maroc. Rabat, de son côté, fait état de 11 morts. On fait le point avec vous, Nawal El Amouchi.
Oui, Nadia, on va faire un point sur ce drame. Selon Madrid, la quasi-totalité des 60 000 personnes qui ont franchi illégalement la frontière, surtout des jeunes Marocains, ont depuis été renvoyés au Maroc. Un afflux décrit par le gouvernement autonome de Ceuta comme le pire jamais vu dans l'enclave et dont le bilan humain ne cesse de s'aggraver. Vous l'avez dit, les autorités de Ceuta font état de 72 morts. Beaucoup se sont noyés. Le ministère marocain de l'Intérieur s'est exprimé plus tard et a finalement donné hier soir un premier bilan. Un bilan qui est différent et qui fait état de 11 personnes décédées. L'association marocaine des droits humains parle, elle, de 130 victimes et de dizaines de disparus. Elle a appelé samedi à l'ouverture d'une enquête indépendante sur les causes de cet afflux inédit de migrants entre la ville marocaine de Fnidderk et l'enclave espagnole. Pour Rabat, cette crise migratoire est due à l'exploitation malveillante des réseaux sociaux et à la diffusion d'informations trompeuses et d'interprétations erronées. Le ministère marocain a annoncé 40 000 tentatives de franchissement irrégulier de la frontière vers Ceuta et a ajouté qu'environ 1000 personnes ont cherché à rejoindre l'autre enclave espagnole de Melilla, qui est située à 400 km plus à l'est. Toutes les personnes arrivées à Melilla ont été renvoyées immédiatement sur le territoire marocain. Certains de ceux qui ont franchi la frontière de l'enclave ont déclaré qu'ils avaient entendu dire qu'elle était ouverte. Une rumeur qui a rapidement été amplifiée sur les réseaux sociaux. L'Espagne a mis en cause des mafias de trafiquants d'êtres humains. L'arrivée de ces migrants a déclenché aussi une crise diplomatique entre l'Espagne et ses partenaires européens les plus à droite et les plus critiques de sa politique migratoire. Les ministres de l'Intérieur des pays de l'Union européenne discuteront demain en visioconférence des événements de Ceuta.
Merci Nawal pour ces précisions. Au moins 52 personnes, dont des enfants, ont été enlevées par des hommes armés lors de l'attaque d'un village de l'état de Zamfara dans le nord-ouest du Nigeria. Les assaillants ont également attaqué une base militaire, tuant un soldat et un policier avant de prendre en otage des habitants. Les enlèvements restent une source majeure de financement pour les groupes armés dans cette région. Au volet incendie à présent en Grèce, les avions bombardiers d'eau ont repris leurs opérations après une accalmie du vent. Un soutien aux 450 pompiers mobilisés contre plusieurs incendies près d'Athènes. Les feux ont déjà fait 5 morts et entraîné de nouvelles évacuations à l'ouest de la capitale. Le risque d'incendie reste très élevé dans la région où plus de 12 000 hectares ont brûlé en une semaine. Aux États-Unis, cette fois, de violents incendies de forêt ravagent la ville de Spokane dans l'État de Washington. Des centaines d'habitations ont été détruites et des évacuations massives ordonnées. Les trois foyers actifs ont déjà parcouru plus de 2000 hectares et ne sont toujours pas contenus. En France, maintenant, 20 départements de l'Est et du Sud-Est restent par ailleurs en vigilance orange canicule, notamment le Var où un incendie est toujours en cours. Le brasier n'est pas encore fixé mais n'a que très peu progressé malgré des conditions toujours défavorables. Au total, 70 habitations ont été touchées, dont 41 détruites. La situation reste globalement stable en Gironde. Le méga-feu est fixé. Les derniers habitants évacués pourront regagner progressivement leur domicile, même si des reprises de feu restent possibles. Dans l'Aude, l'incendie déclenché près de Carcassonne a été fixé après avoir parcouru une centaine d'hectares. Et puis, Météo France place 10 départements du Sud-Ouest en vigilance orange pour des orages attendus à partir de cet après-midi. Ces intempéries pourraient s'accompagner de fortes pluies, de grêles et de violentes rafales de vent. En France toujours, la crise du logement continue de fragiliser les plus précaires dans un contexte où le taux de pauvreté atteint un niveau inédit. Pour la Fédération des acteurs de la solidarité, ces questions de cohésion sociale et de lutte contre la précarité doivent s'imposer au cœur du débat public et de la prochaine campagne présidentielle. Pour Emmanuel Bougras, directeur des politiques publiques et du juridique de la Fédération des acteurs de la solidarité, ces questions ne peuvent plus être reléguées au second plan. On l'écoute.
On organise notre congrès fédérale les 21 et 22 janvier à Marseille. Et donc à cette occasion-là, on va nous entretenir avec les candidats et candidates à la présidentielle pour mettre les enjeux de solidarité au sens large au cœur de la présidentielle. On sait que malheureusement, ce n'est pas forcément le sujet qui est régulièrement mis en avant, mais pour autant, il est majeur, surtout dans un moment où, comme le montre l'INSEE, le taux de pauvreté n'a jamais été aussi élevé. Et donc on a vraiment besoin, dans ce pays, de reparler sereinement de cohésion sociale et de solidarité.
La question du logement doit être un sujet phare de cette campagne. Qu'est-ce que vous demandez aux différents candidats ?
Nous, ce qu'on demande, c'est vraiment une programmation pluriannuelle de la rue au logement, avec une production plus ambitieuse de logements sociaux et très sociaux. Encore une fois, on paye là le défaut de production de logements sociaux depuis 2017, et donc il faut vraiment un choc assez important, très important même, de production de logements très sociaux. Ce qu'on demande également, c'est l'encadrement des loyers dans le parc privé. On voit que ça fonctionne et on voit que ça permet au moins de maîtriser un peu ces envolées des prix. C'est vraiment des actions fortes pour permettre finalement tout à chacun de se loger. Et on voit que malheureusement, c'est de plus en plus compliqué pour toutes les personnes de se loger et de fait pour les personnes les plus en précarité.
Emmanuel Bougras, directeur des politiques publiques et du juridique de la Fédération des acteurs de la solidarité. Il est l'invité de Grand Angle tout à l'heure après le flash de 18h. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre écoute et merci à Mohamed Albezeri pour la mise en onde. Je vous retrouve dans un peu moins d'une heure pour un point de l'actualité complet. Ça sera à 13h. Merci et à tout à l'heure.